écoutez Radio Oméga 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, transition au Burkina, le président du Faso a échangé hier avec le corps diplomatique sur les objectifs de la transition et demande l'accompagnement du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines. Les rumeurs sur la toile faisant cas de l'arrestation la défense, le général Barthélémy Sempore sont fausses, selon le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Le général Barthélémy Sempore est bel et bien libre. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme chaque vendredi, nous vous plongeons au cœur de l'éditorial version Oméga Média. Il sera question avec Wesley Houlon de la mise en place des comités locaux pour le dialogue, pour dialoguer avec les terroristes. Notre invité du jour, Mamoudou Savatgo, expert en sécurité, aborde également dans le même sens avec les tenants et les aboutissants de la mise en place des comités locaux du dialogue. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. En début de journal, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a rencontré hier matin le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines. Les discussions ont porté sur la conduite de la transition. Plus de détails avec Bernabé Cabri.
Un face-à-face entre le chef de l'État et les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et interafricaines au Burkina Faso. Objet, échanger sur la conduite de la transition et obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires. Et bien évidemment, le président du Faso a justifié son coup de force perpétré le 24 janvier. C'est une prise de responsabilité que nous assumons pleinement, a réaffirmé le chef de l'État devant les diplomates. Il a ensuite fait un bilan des actions entreprises par son équipe depuis 3 mois avant de terminer par un plaidoyer pour un accompagnement conséquent du pays par les partenaires. Un accompagnement pour aider à atteindre les objectifs suivants, la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité du territoire, une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire, le renforcement de la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'assainissement et la refondation de la vie politique. Je voudrais vous donner l'assurance que notre action vise une mise en orbite définitive de notre pays. Nous savons que c'est un processus intergénérationnel, mais notre ambition est de donner le temps, a indiqué le président Damiba. Des échanges et donc évidemment, les diplomates ont posé des préoccupations. Elles tournent autour du chronogramme de la transition, du retour à l'ordre constitutionnel et du respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. En réponse, le président du Faso a insisté qu'il entend bien retourner à un ordre constitutionnel normal une fois que les conditions sécuritaires seront réunies permettant l'organisation d'élections. Sur les questions relatives aux droits humains dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État a partagé cette préoccupation et déclaré que les dérives du genre sont préjudiciables aux efforts de restauration de la paix et de la sécurité.
Justement, parlant de transition, le gouvernement optait finalement pour la mise en place des comités locaux de dialogue pour la paix dans le but d'instaurer le dialogue avec les groupes armés. Cette initiative est abordée dans notre éditorial et c'est signé Wesley Houlon.
Le gouvernement va dialoguer, mais ne négociera pas. Paul-Henri Damiba et Yero Boly sont catégoriques sur leur démarche vis-à-vis des groupes armés qui menacent la sécurité des Burkinabés, qui tout de suite se demandent quelle différence y a-t-il entre dialoguer et négocier. C'est une rhétorique. À égarer le citoyen lambda, dialoguer dans le Larousse français, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Compte tenu de cette conversation, entretien, discussion, le dialogue est opposable au monologue ou la rupture du banc de communication. Dialoguer suppose donc prise de contact, relations de communication dans les deux sens, où émetteurs et récepteurs alternent leur rôle avec une disposition à s'écouter parfaitement. La négociation, elle, peut être un élément du dialogue dépendant de l'objet de ce dialogue, négocier voulant dire discuter de quelque chose avec quelqu'un en vue d'établir la chose, de la rétablir, de l'obtenir. Comme par exemple, négocier la paix, négocier le dépôt des armes avec des frères burkinabés engagés dans des groupes terroristes. La négociation touche à l'objet du dialogue. On ne peut pas négocier sans dialoguer. Or, dans le contexte de la crise sécuritaire burkinabé, tout dialogue irrelatif va viser naturellement la paix. On va donc dire qu'on négociera quelle qu'en soit la situation. Ce qui n'est pas négociable dans la partie du dialogue, ce sera des points spécifiques de souveraineté et de valeur, comme monnayer leur désarmement contre des espèces sonnantes et trébuchantes, comme concéder une partie du territoire burkinabé, etc. Affirmatif donc, le gouvernement burkinabé négociera si dialogue il y a, sauf si c'est un dialogue de guerre dont l'objet n'est pas du tout la paix. On peut comprendre que Paul-Henri Damiba et Yero Bouly n'aient pas trouvé les mots justes pour exprimer leurs idées. Schématiquement parlant et dans le lexique de la résolution des conflits, les priorités des autorités burkinabées vont être la déradicalisation et la prévention. Comme en médecine, la déradicalisation va consister en un sérum pour traiter le mal et en fonction du niveau, il y aura un traitement par voie orale, intraveineuse et la chirurgie pour les cas graves. Autrement, le dialogue et la négociation qui vont ensemble se feront avec ceux qui sont encore convertibles pour les amener à passer de la position radicale à celle modérée. La prévention équivalente de la vaccination va, elle, consister à préparer les Burkinabés non encore engagés à s'éloigner des prêcheurs de la violence et autres marchands d'illusions. Il faut comprendre enfin, dans la démarche des autorités de la transition burkinabé, que la cible des interlocuteurs, ce sont les frères burkinabés engagés dans le terrorisme et non un quelconque groupe terroriste qu'ils s'appellent en sardine Al-Qaïda au Maghreb islamique, Moujao, Boko Haram, Al-Mourabutoun ou Ansar al-Sharia.
Et puis, cette brève avant de poursuivre, la rumeur qui annonçait l'arrestation du ministre de la Défense, le général Barthélémy Saint-Pourré, est fausse selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgeau. C'est dans un communiqué hier que le porte-parole du gouvernement a démenti cette information. Selon Lionel Bilgeau, il s'agit de fausses informations et rappelle que les auteurs s'exposent à des peines prévues par la loi. La première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou, Sirpo, se tiendra les 17 et 18 novembre prochains. Organisé par le cabinet d'études et de recherche en entreprise, ce rendez-vous sera une tribune qui permettra aux travailleurs de tenter de nouvelles aventures professionnelles et de lancer de nouveaux défis de la vie par un accompagnement personnalisé et adapté. Le comité d'organisation a donné les grands axes de ce salon hier à Ouagadougou. On en sait un peu plus avec Valérie Traoré avec la voix de Bernabé Cabré.
La problématique de la reconversion professionnelle revient avec insistance au Burkina Faso. Pour y remédier, le cabinet d'études et de recherche en entreprise a lancé son programme Baobab pour une reconversion réussie. Il sera donc organisé en novembre la première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou. L'objectif est de valoriser les compétences des travailleurs de tous bords et les aider à se réorienter. Amadou Nebila Yaro, directeur général du cabinet d'études et de recherche en entreprise.
Nous avons pensé, au regard de notre expérience, qu'il était bon d'être à la disposition donc, des seniors, ce que nous appelons les seniors, des possibilités, des opportunités donc, de préparer donc, leur retraite pour que justement, à la retraite, qu'ils puissent continuer donc, à exercer donc, et à faire autre chose. Notre ambition, c'est en créant donc, cette première édition donc, du CIRPO, c'est d'offrir un cadre d'échange entre les seniors, les associations et puis tous les partenaires nationaux et internationaux pour pouvoir les accompagner justement dans ce processus en leur offrant donc, tous les produits, tous les services, quel que soit le profil donc, qu'il y a, pour que justement ils puissent avoir une reconversion professionnelle réussie.
La reconversion professionnelle ne doit pas être brusque. Elle est le fruit d'un processus selon Amadou Nebila Yaro.
Et cette reconversion professionnelle-là, elle se prépare avant. Elle se prépare avant. C'est pour ça que nous visons dans les seniors. Elle se prépare avant, 5 ans, 10 ans, voire même 15 ans avant donc, dans la retraite, pour se donner donc, toutes les chances donc, de pouvoir aboutir donc, à cette reconversion professionnelle.
La première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou va se tenir sous le thème « La reconversion professionnelle, une réalité professionnelle ».
2 millions de francs CFA pour booster l'autonomisation des femmes de Gonsin. L'ONG Lumière Synergie pour le développement a tendu sa main à l'endroit des femmes de la commune de Gonsin hier. L'objectif de ce don est de booster les activités génératrices de revenus des femmes afin de faciliter leur autonomisation et leur donner de la force. Le compte-rendu signé Moumouni Tamboura.
Ces femmes de Gonsin exercent dans diverses activités comme la fabrication du beurre de karité, du savon, du dolo et bien d'autres produits locaux. Chaque domaine d'activité représenté par une responsable a bénéficié de l'aide au nom de son groupe. Ce don permettra sans doute de développer les activités. Abibata Kabore, secrétaire général des femmes de Gonsin.
C'est l'occupation de nos terres qui les ont poussées à avoir pitié de nous. On ne peut plus payer à manger. On n'a plus de terres pour cultiver aussi. Ce sont nos petites activités qui nous permettent d'aider nos enfants, car ils font beaucoup plus pitié. Mais comme ils sont venus nous soutenir à sortir de cette misère, vraiment, nous sommes très contentes et ils peuvent compter sur nous. Nous allons bien travailler.
Après un travail de recherche, selon les responsables du projet, les femmes de la communauté sont encore plus impactées car n'étant pas considérées comme propriétaires terriens. Elles n'ont pas alors droit à une indemnisation alors qu'elles cultivaient les terres au même titre que les hommes et participent au développement économique. Telles sont entre autres les motivations de l'ONG à venir en aide à ces femmes. Habib Diaye, chargé de projet.
Nous, on travaille pour l'autonomisation de la femme. Si la femme est autonome, elle s'épanouit. Et l'épanouissement de la femme, c'est l'épanouissement de toute une communauté. Donc nous, on se bat pour que ces femmes-là soient autonomes, soient indépendantes, surtout financièrement.
Même si les bénéficiaires de la localité de Gonsin apprécient l'initiative de l'ONG, des défis ne manquent pas. Babacar Diouf, spécialiste suivi du projet.
L'un des défis également très important, c'est la consultation et la participation des femmes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets d'infrastructure. L'absence de consultation et de participation des femmes entraîne directement les pertes de revenus et la paupérisation de ces femmes qui se reflètent sur la vie de leur ménage et de leur famille.
Plus de 160 femmes ont bénéficié de cette aide. Depuis 2021, l'ONG a initié un projet de mapping afin de faire le suivi des projets de la BAD dans 4 pays ouest africains parmi lesquels la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. En rappel, le projet Yélène, qui fait partie de l'initiative Desert Power, un projet de centrale solaire traverse le village de Gonsin et a causé la perte de plusieurs hectares de terre pour les populations qui vivaient exclusivement pour la plupart d'agriculture.
La société de recherche et d'exploitation minière Burkina Gold Souk a réalisé des forages d'approvisionnement d'eau potable au profit des populations de Tinkiro dans la commune rurale de Mindepo, province du Noumbiel, dans le sud-ouest. La remise des 10 forages a eu lieu hier matin à Tinkiro. Moumouni Yaro pour le compte rendu.
L'eau est source de vie, mais elle est encore plus quand elle est propre à la consommation, ce qui est inaccessible à tous, quand bien que les autorités en charge de ce liquide précieux et vital promettent zéro corvée d'eau d'ici 2030 au Burkinabé. Mythe ou réalité, tout compte fait, la société de recherche et d'exploitation minière Burkina Gold Souk leur vient en aide en soulageant les peines des habitants de la commune de Midebdo. Arsène Nanema, gérant de la société.
L'accès à l'eau potable constitue vraiment un véritable souci pour la population. Et cela a été vraiment un cri de cœur de nos mamans. On n'a pas voulu rester indifférent. À travers ce don, on souhaiterait renforcer la collaboration et la cohésion sociale aussi bien entre la société et les différentes collectivités locales.
Ces forages viennent raccourcir les longues distances que parcouraient les jeunes et les femmes pour se procurer de l'eau potable. Jacob Palé, habitant de la commune.
Souvent, on vient ici même pour trouver l'eau à boire, c'est difficile. Il faut repartir à Gawa pour chercher l'eau à mener. Mais hier, quand on est venu ici, c'est ici qu'on a bu l'eau. Et Dieu le bénisse pour que la société avance. Là où qu'on part enlever l'eau là, les mamans là ne peuvent pas arriver là-bas. C'est les jeunes là. Donc c'est toute la population qui souffrait. Là où qu'on part enlever l'eau, c'est plus de 10 km. Hein. Si c'est au bas-fond là, ça c'est pas l'eau, c'est la boue. Ça a d'autres bouillis, d'autres ne bouillent pas.
Le haut commissaire de la province de Noumbiel interpelle les bénéficiaires à une bonne utilisation des ouvrages. Mathieu Tengueri.
J'ai invité la population à en prendre soin, afin donc d'assurer sa pérennité, afin qu'ils puissent continuer à bénéficier de l'eau potable. Avec la société n'a pas encore démarré ses activités, mais déjà elle a pu réaliser 5 forages au profit des populations. Je peux dire que désormais nous pouvons compter sur leur contribution au développement socio-économique.
Pour la concrétisation de cette confiance, la société lance son cri de cœur aux autorités. Arsène Nanema.
La suspension des dépôts pour l'octroi de nouveaux permis d'exploitation semi-mécanisée constitue vraiment un véritable obstacle pour la suite de notre activité. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à l'autorité compétente de œuvrer en ce sens.
La réalisation de ces ouvrages a coûté 18 350 000 francs CFA. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la mine semi-mécanique de Burkina Goldsouk dans le village de Tenkiro.
Omega Sport.
En sport, le stade du 4 août ne sera pas prêt avant septembre 2022. Conséquence, les étalons ne pourront pas recevoir leurs adversaires à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Débutant en octobre dernier, comment avance donc ce projet? Mais ce qu'on sait, c'est que le ministère en charge des sports reste optimiste et espère trouver des alternatives. Sur place, sur le chantier, nous écoutons Herman Yabré, il est le directeur de cabinet du ministère en charge des sports.
Les jours à venir, comme il a dit tout de suite, juin, les vestiaires seront finis. La pelouse également, s'il plaît à Dieu. Avec ce minimum, nous pouvons négocier pour que nous puissions jouer nos matchs ici. Mais comme vous savez, le délai, c'est fin septembre. Ils ont jusqu'à fin septembre pour nous livrer le stade de réhabilité. Je pense que l'entreprise nous a rassurés. Et avec ce que nous avons vu sur place ici, la mobilisation du personnel, je pense qu'on peut dire qu'en fin septembre, nous aurons notre stade terminé.
Alors, l'information vient donc de nous parvenir. Les étalons A ont désormais un nouvel entraîneur. Pour en parler, nous recevons donc Bernabé Cabré, chef du service d'export. Alors, Bernabé Cabré, qui est le nouveau sélectionneur des étalons?
Bonjour Kader et bonjour aux auditeurs de Radio Omega. Cet officiel, Hubert Velut, de nationalité française, est le nouvel entraîneur des étalons du Burkina Faso. Il a été retenu parmi les 64 sélectionneurs qui avaient fait acte de candidature. Et après examen des dossiers et entretien avec les différents techniciens, la Fédération Burkinabé vient d'officialiser cette information qu'elle a décidé de nommer Hubert Velut, de nationalité française, à la tête de l'encadrement technique des étalons du Burkina Faso.
Alors, pendant donc qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cet entraîneur?
La fédération avait indiqué que le prochain coach devrait avoir un CV dans lequel il aurait entraîné auparavant des équipes africaines et des clubs africains. Et lorsqu'on jette un coup d'œil au palmarès d'Hubert Velut, il a entraîné deux sélections africaines, la sélection du Togo en 2009-2010, une sélection togolaise qu'il avait pu qualifier pour la CAN en Angola. Malheureusement, avec l'attaque de Kabinda, la sélection togolaise avait renoncé à la participation. Il a aussi qualifié l'équipe du Soudan pour la dernière CAN au Cameroun, mais l'arrivée d'un nouveau président à la tête de la fédération soudanaise avait précipité son départ, puisque le nouveau président avait indiqué qu'il voulait son propre entraîneur, ce qui avait entraîné donc le départ d'Hubert Velut. Voici donc les deux sélections africaines qu'il a coachées, mais au niveau des clubs, on peut citer tout un chapelet de clubs africains. Il a entraîné le Stade tunisien, l'Étoile sportive du Sahel, l'Entente sportive de Séti, l'USMA d'Alger, la JS Kabylie, le club sportif de Constantine, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, pour ne citer que ces clubs africains.
Mais est-ce qu'on en sait plus sur ces adjoints?
Et pour le moment, non. La fédération devrait communiquer les heures ou les jours à venir sur les adjoints d'Hubert Velud. Mais tout porte à croire que ce sera un technicien burkinabé ou des techniciens burkinabés qui seront donc les adjoints d'Hubert Velud, nouveau coach des étalons du Burkina.
Merci à vous, Bernabé Cabré, d'être passé pour ces informations.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité du jour est Mamoudou Savadgo, il est expert en sécurité. Mamoudou Savadgo aborde aujourd'hui le projet du gouvernement burkinabé de mise en place des comités locaux pour dialoguer avec les terroristes. Il répond aux questions d'Asmao Dao.
Mamoudou Savadgo, une mise en place de comités locaux pour dialoguer avec les groupes terroristes sans frais. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent. Croyez-vous à la réussite de ce dialogue quand on sait que les terroristes misent gros pour épater des proies?
Ça va coûter beaucoup d'investissement en termes de volonté personnelle. Alors là où j'ai dit que ça va coûter beaucoup d'argent, parce que l'offre offerte par les groupes armés terroristes, elle est très alléchante. Qui leur donne, si vous voulez, un kit complet. Ce kit complet, c'est quoi? C'est la dignité, c'est la sortie de la pauvreté, c'est la reconnaissance de la société et c'est aussi l'occasion de se faire justice. Mais il y en a qui ont rejoint parce qu'ils étaient convaincus de la lutte de ces groupes armés. Il y a une idéologie qui les a poussés à rejoindre. Donc là, il va falloir les déradicaliser idéologiquement. Et cette déradicalisation idéologique incombe aux leaders religieux et encore aux leaders coutumiers. Et lorsqu'on finit cette étape, il y a maintenant l'insertion sociale. Et pendant ce temps, il faut bien s'occuper du jeune qui est là. Donc, il faut bien que quelqu'un lui donne à manger, parce qu'il ne va plus avoir à manger. Il faut que quelqu'un s'occupe de sa maman, de ses enfants, de ses frères. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait dire que ça ne peut pas être à zéro franc.
Est-ce que la mise à contribution de leaders locaux, chefs coutumiers et religieux, peut porter fruit quand on sait que des chefs coutumiers et surtout des leaders religieux sont enlevés et assassinés? Pensez-vous que les groupes armés prendront cette main qui leur sera tendue?
Il faut impliquer différents acteurs à différents niveaux qui vont permettre à ce que ces jeunes-là soient acceptés d'abord par la communauté. Quelles que soient les propositions qu'on va les faire, si ces jeunes ne sont pas acceptés par les communautés dans lesquelles ils sont issus, eh bien, c'est peine perdue, les communautés vont les rejeter. Parce qu'il y a eu beaucoup de vengeance, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, et il va falloir d'abord que la communauté accepte de les pardonner. Ensuite, il va falloir qu'eux-mêmes, ils acceptent de rentrer dans le moule dans lequel on aurait préparé pour qu'ils rentrent. Donc ça veut dire qu'il faut une institution, une structure en place pour les accueillir et les démobiliser. Et ça peut nous permettre de récupérer ces jeunes-là, on peut les renvoyer pour convaincre les autres de revenir parce qu'il y a de l'espoir. Mais maintenant, est-ce que moralement, on a préparé l'opinion publique générale à accepter cet état de fait? C'est la question qu'on se pose.
Et l'option de dialogue, est-elle envisageable à court, moyen ou long terme?
À l'intérieur de ces groupes armés terroristes, il y a certaines acquaintances. Il y a d'abord différents groupes qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes qui appartiennent à différents groupes, donc qui n'ont pas eu la même idéologie. Donc il va falloir d'abord comprendre l'idéologie à laquelle ils sont affiliés et voir quelle démarche il faut faire pour pouvoir les ramener vers nous. Donc c'est ce que j'ai dit, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Ça va prendre beaucoup plus de temps pour quelle nécessité, à l'étape actuelle de récurrentes attaques et de pertes en vies humaines?
C'est toute la complexité. Nous sommes vraiment dans certaines zones en position de faiblesse parce qu'ils ont réussi à couper les moyens de communication, même les axes qui relient ces communes au chef-lieu de région. Donc, les populations sont prises en otage, les populations sont isolées. Ceux qui arrivent à quitter ne peuvent plus retourner. Et ceux-mêmes qui y retournent, deux fois, ils sont tellement marqués psychologiquement qu'ils repartent aussitôt parce que si dans ton village, on a tué des gens, on a jeté les corps dans des puits, vous voyez qu'il y a tout ça qu'il faut réparer avant que les personnes déplacées retournent.
C'est fini pour ce journal mis en onde par Adama Konaté. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.